première fois que j'ai entendu cette histoire, et peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous aujourd'hui, j'ai été tenté par une lecture très superficielle. Enfin, je dis qu'elle est superficielle, mais tout de suite, je me suis dit, bon, les riches vont en enfer et les pauvres vont au paradis. Voilà. Donc, si t'es pauvre, t'es mal barré. Si t'es riche, t'es mal barré. Si t'es pauvre, t'es plutôt bien barré. Fin de l'histoire. Sauf que c'est pas exactement ça, et c'est même pas ça du tout. Parce qu'autant vous dire qu'il y a des riches au ciel, bien sûr qu'il y a des riches au ciel. Autant vous dire qu'il y a des pauvres en enfer, bien sûr qu'il y a des pauvres en enfer. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va en enfer et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va au paradis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour comprendre, il faut d'abord se rappeler que cette histoire que vous venez d'entendre, au temps de Jésus, on la racontait au coin du feu. Le soir, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, et on racontait ce genre d'histoire. C'était l'histoire de Bar Mayan, le fils de Mayan, qui était un horrible bonhomme et qui n'arrêtait pas de terroriser tout le monde, etc. Évidemment, c'est ce genre d'histoire, vous savez, à répétition, un peu comme des sagas qu'on raconte. Donc tout le monde avait dans la tête l'histoire de cet homme qui, accessoirement, était riche, mais surtout qui faisait du mal à droite et à gauche. Et puis, il y a la mort dans ce texte. Il y a la mort du riche et il y a la mort du pauvre. Et ça, il me semble que c'est la première pointe. C'est la première chose contre laquelle on bute, mais qui peut être aussi une source d'espérance extraordinaire. La mort, dans le texte, c'est pas la fin pour le riche, c'est pas la fin pour le pauvre, c'est pas la fin pour nous, la mort. La mort, c'est juste une limite que Dieu pointe du doigt en nous disant « Voilà, tu vas passer par là, prépare-toi. » Et toute notre vie, on se prépare à ça, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais tous inconsciemment, on s'y prépare. D'ailleurs, on essaye de reculer. Essayez de reculer, on va chez l'esthéticienne, on se rajoute des ongles, on se fait des couleurs. Mais tous, on est tous pareils. On recule. Il y a même des pommades, il paraît, qui enlèvent les rides. On s'enlève les boutons. On rajoute du parfum. Amos en parle, du parfum. Devant la mort, le Seigneur simplement nous dit, tu sais, pendant ta vie, tu es libre. Tu as le choix de faire le bien. Tu n'as pas le choix de faire le bien ou le mal, tu as le choix de faire le bien. Tu as le choix de faire les œuvres de miséricorde. Je ne sais pas si vous avez remarqué un détail du texte, on connaît le nom du pauvre, on ne connaît pas le nom du riche. Le pauvre, il s'appelle Dieu sauve. Mais le riche, il n'a pas de nom. Pourquoi ? Parce que c'est nous. Parce que c'est chacun d'entre nous. Vous pouvez mettre votre nom. Alors vous allez me dire, mais quand même, mon père, je ne suis pas si riche que ça. Ouais. Bah, faut regarder d'un peu plus près. Être riche à la façon de l'écriture, de la page d'écriture qu'on vient de lire, c'est pas d'avoir des biens. C'est simplement ne pas s'occuper de ceux qui sont autour de nous. C'est ça que pointe le Seigneur. Tu as toute ta vie le choix de s'occuper de ceux qui sont autour de toi. Lazare, il est tout près, il est à la porte. Petite parenthèse, un détail d'exégèse qui me revient à la mémoire à l'instant où je vous parle, vous savez que la description du riche, le lin, la couleur pourpre, etc., c'est ni plus ni moins la description d'un prêtre du temple. Donc ça s'adresse en priorité au prêtre. Voilà, comme ça j'espère que ça vous rassure. On a toute cette vie pour avoir le choix de faire du bien. Et il faut reconnaître une chose, c'est que la difficulté numéro un, eh ben c'est précisément les richesses qui nous entourent, tout simplement parce qu'elles nous engluent. Elles peuvent ne pas nous engluer, mais la vérité, c'est qu'elles nous engluent. Relisons Amos. Celui-là, il faut se le lire plusieurs fois avant la fin de la journée. Malheur, alors quand le Seigneur dit malheur, ça veut dire faites attention, vous n'allez pas tout le temps être aussi heureux que vous l'êtes aujourd'hui si vous continuez. C'est ça que ça veut dire. Mais tout peut changer. En fait, c'est un texte d'espérance, hein. C'est juste le Seigneur qui nous prévient et qui nous dit fais gaffe, l'horloge tourne. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion. Malheur à ceux qui sont tranquilles, tranquilles. Vous les interrogez, ça va. C'est comment ça va? Ça va, tranquille. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Rien les touche, rien. Ni le bien, ni le mal, rien les touche. Pas de variabilité. Ça va. On en connaît tous. Et on a des phases nous-mêmes comme ça. À ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, la sécurité. On la cherche tous, la sécurité. Mais qu'est-ce qu'elle nous saoule, cette sécurité? Franchement, de vous à moi, on est tellement attaché à notre sécurité, on a une ceinture, deux ceintures, trois ceintures, on ne peut plus bouger d'une certaine façon parfois. Tellement dans la sécurité. On a tellement peur. Plus on est angoissé, plus on a peur, plus on est angoissé, plus on a peur, plus on est angoissé, plus on a peur et moins on fait de choses. Parce qu'on ne veut pas se trouver dans une situation où on est angoissé. Et on ne bouge plus. Et on est comme mort finalement. La sécurité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les gens en sécurité. Je dis simplement que trop de sécurité tue la sécurité. Voilà, d'une certaine façon, c'est facile à dire, mais c'est un peu vrai aussi. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leur divan. Je laisse au défunt pape François, vous vous souvenez ce qu'il disait? Les divans, vous êtes assis sur des canapés confortables. Levez-vous, bougez-vous. Là encore, on y est tous, tous. Enfin, si on a un canapé, sinon on a des fauteuils. Vous savez, ces fauteuils club, confortables. C'est les situations dans lesquelles on n'ose plus bouger, parce qu'on est tout simplement bien. Ils mangent les agneaux du troupeau. Ça, ils vont choisir ce qu'il y a de meilleur. Ils vont manger ce qu'il y a de meilleur. Ils pensent 2 heures avant le déjeuner à ce qu'ils vont manger. Et toute la vie est orientée vers ce qui va finir dans les lieux d'aisance. Mais bon, en attendant, déjeuner ensemble, c'est vachement sympa. Mais vous voyez, c'est la place que les choses prennent contre lesquelles le Seigneur veut lutter. Ce n'est pas le fait de manger des choses bonnes. Ça, le Seigneur nous recommande de manger des choses bonnes. Ce qu'il nous recommande, c'est que ça ne prenne pas trop de place, c'est que ça ne prenne pas toute la place. C'est qu'on ne fasse pas 40 millions de kilomètres pour aller chercher un magnifique poisson. Vous voyez ? Qu'on ne dépense pas des sommes astronomiques pour une viande qui a maturé dans des endroits. Il paraît que la viande, ça mature. J'ai appris ça cette semaine d'un restaurateur. Ils improvisent au son de la harpe. Ah, vous les voyez, les guitaristes sur leur Gibson. On fait des petits sons de musique, vous savez. Voilà, on est là, on est content. Tous, mais on le fait tous. Alors, ceux qui n'ont pas d'instrument de musique, ils ouvrent leur chaîne stéréo. Et ils écoutent. Ah, c'est pas qu'il ne faut pas écouter. C'est simplement que le Seigneur nous demande de ne pas y passer notre vie. Chers frères et sœurs, on déambule dans la rue avec des écouteurs dans les oreilles, moi le premier. Mais est-ce que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire? Est-ce qu'une fois qu'on a écouté le morceau qu'on voulait écouter, il ne faut pas mieux éteindre et supporter les touristes? et supporter les gens. C'est lourd, c'est dur, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un salut à ça? Ils boivent le vin à même les amphores. Pas dans le deuxième arrondissement. Non, nous on a des verres en cristal. Je fais mieux les choses quand même. Mais enfin, vous voyez, boire à même le goulot, c'est sans retenue. Vous voyez, il n'y a pas de limite au verre. Quand on boit à la bouteille, il n'y a pas de limite au verre, en fait. C'est boire sans limite. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours la même règle. On chante la limite. On ne veut pas de limite. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Il se frotte avec des parfums de luxe. Tadam ! Dior, Cacharel, Guerlain. Mais c'est vrai, ça sent bon. C'est agréable. Est-ce qu'il faut vraiment arrêter? Faisons attention. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on pourrait reporter l'achat d'une bouteille de parfum? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on pourrait en mettre un peu moins? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on pourrait mettre des choses un peu plus discrètes? Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir le prix d'une bouteille de parfum à quelqu'un qui en a besoin? Hein, c'est 80 balles, entre 80 et 120 balles. Comment est-ce qu'il sait le prix de la bouteille de parfum? Plus haut, me dit Jean. Et non, tu dois cocoter, mon ami, parce que plus que 130 euros. Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est Amos, hein, c'est le prophète Amos. Il ne se tourmente guère du désastre de la France. Je vous la fais courte. Mais en ce moment, on pourrait parler du désastre d'Israël. Il ne se tourmente guère du désastre d'Israël. Là aussi, ça pique. Voyez, chers frères et sœurs, comme l'Écriture est vivante. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Tadam ! C'est pourquoi maintenant, dit le Seigneur, je vais prendre les choses en main et je vais les inviter à s'ouvrir, à donner et avant tout à lire l'Écriture. Parce que si le Seigneur nous dit qu'il est indispensable de prendre soin des autres, vous avez remarqué que la fin de l'Écriture nous donne le moyen de le faire. Parce qu'on pourrait se retourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, Seigneur, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que je fais? Les sœurs, elles font tout. Qu'est-ce qui me reste ?» Réponse du Seigneur, qui peut paraître un peu étonnante aussi, parce qu'on pourrait s'attendre à « fais ceci, fais cela », mais on n'est plus des enfants, les amis, on n'est pas des enfants. Alors le Seigneur nous prend comme des adultes. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as l'Écriture! Tu as l'Écriture, la solution c'est l'Écriture. Ah bon, j'ai l'Écriture? Bah oui, entre autres le prophète Amos. Vous voulez que je vous relise le prophète Amos? Je vais pas vous faire le coup quand même. Mais vous voyez que dans l'Écriture, on sait bien. Alors du coup, encore une petite glissade. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Amos? Ben, le prophète Amos fait exactement ce que le pape François nous a proposé de faire, nous occuper des œuvres de miséricorde. Alors je vais vous donner 7 points et vous pourrez regarder sur YouTube la vidéo qui est en train de tourner. Comme ça, vous vous rappellerez, hein, Jean, après t'être parfumé devant. Vous pourrez réécouter ces 7 points. Nourrir les affamés. Les vrais affamés, hein. Pas ceux qui mangent très très bien et qui gagnent un peu plus d'argent aux portes des églises. Je ne dis pas que c'est le cas de Franck et de Jean-Jacques. Mais il y en a d'autres. Et ceux-là, on les voit moins. Donner à boire à ceux qui ont soif. Soif de rigoler? Il y a une foultitude de gens qui ne rigolent jamais. On pourrait leur donner à boire une bonne rasade de rigolade. Vous voyez, c'est apaiser la souffrance des gens, quelle qu'elle soit, la souffrance psychologique, la souffrance physique. Hier, il y a une dame qui a mis 40 minutes à remonter la rue. Parce qu'elle faisait ses courses. J'ai mis 40 minutes à réagir. Voilà l'état de votre curé. Héberger les sans-abri, c'est la troisième œuvre de miséricorde. Héberger les sans-abri, trouver des solutions. Il ne s'agit pas forcément que les sans-abri habitent dans le couvent des bonnes sœurs. Ça ferait désordre. Mais on peut toujours trouver des solutions. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de trouver des solutions. Ce n'est pas de les prendre chez nous, de les mettre dans notre lit. Ça, c'est pour les plus saints d'entre nous. Trouver des solutions. Quatrième œuvre de miséricorde, visiter les prisonniers. Prison de la santé. À Paris, mais il y en a des tas d'autres. Il y a certains prisonniers qu'il vaut mieux laisser tranquilles en ce moment. Mais il y en a plein d'autres. C'est facile d'aller en prison. Ne croyez pas que ça soit très difficile. Il y a juste une petite enquête et puis ensuite, voilà, passer du temps en prison. Il y en a qui le font parmi vous, je le sais. Vêtir ceux qui sont nus. Enterrer les morts. Chers frères et sœurs, on n'enterre pas assez les morts et c'est pour ça que la France est dépressive. On n'enterre pas assez nos morts. On est trop peu nombreux aux enterrements. Il faut soigner les enterrements. On ne le fait pas assez. On se trouve trop d'excuses. C'est une des caractéristiques de l'ascédie, le fait de ne pas enterrer les morts. Et enfin, visiter les malades, visiter les hôpitaux. On a combien d'hôpitaux à Paris ? Il y a des médecins, plein de médecins dans l'Assemblée. J'en vois un au moins, deux, trois, quatre. Ils peuvent vous donner des adresses, c'est facile. Il y a des aumôneries dans les hôpitaux. Bref, vous avez compris le message. Et si on se sent encore un peu en suquet, si on a encore du mal à bouger, qu'est-ce qu'on fait ? Alors je vous invite à aller voir la Sainte Vierge. Demandez à la Sainte Vierge, harcelez-la, prenez votre chapelet, dites-lui j'arrive pas à voir les pauvres, ils me dégoûtent les pauvres, j'y arrive pas, ça reste bloqué. La Sainte Vierge vous débloquera, c'est sûr et certain. Mais pour ça, il faut d'abord choisir d'écouter le prophète Amos, choisir l'Écriture. Et accepter que le Seigneur vienne convertir nos cœurs. Amen.